Je vous invite à tourner dans la parole de Dieu, dans l'Évangile de Marc. Évangile de Marc. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? OK. On va parler gros. Okay. Alors, lorsque nous pensons à notre Dieu Tout-Puissant, nous pensons souvent à lui en termes de grandeur et en termes de puissance. Après tout, il est celui qui a tout créé. Il se tenait au milieu de rien. Il n'avait besoin de rien et pourtant, il a tout créé. C'est un grand Dieu, comme nous l'avons vu dans le psaume et comme nous l'avons vu dans différents cantiques. Il est le Dieu qui a bien voulu se révéler à l'homme. Il nous a fait connaître sa sainte parole à travers les hommes qu'il a choisis en les inspirant pour qu'ils écrivent exactement ce qu'il leur avait révélé. En plus de cela, il a su parfaitement préserver cette parole jusqu'à maintenant. C'est un grand Dieu. Il est le Dieu qui sauve. Il a envoyé son Fils Jésus dans le monde mourir pour les pécheurs. Et lorsqu'il s'est rendu sur la croix, il a ouvert un chemin afin que tous ceux qui accepteraient de répondre à son invitation puissent recevoir le pardon de leurs péchés. Cela signifie que ces personnes font dorénavant partie de sa famille et qu'ils entrent immédiatement au paradis, comme il l'a dit aux malfaiteurs, lorsqu'ils quittent ce monde pour vivre éternellement dans la présence de Dieu. C'est un grand Dieu. Chers amis, nous servons un Dieu qui a accompli de grands miracles et qui continue à accomplir de grandes choses. Cependant, j'aimerais ajouter qu'il est aussi le Dieu qui utilise aussi les petites choses de la vie pour manifester sa toute-puissance et démontrer quel grand Dieu glorieux il est. Amen. Et on va lire un texte ce matin, Marc chapitre 6, versets 31 à 44. 31 à 44. Alors, le contexte, c'est que les apôtres venaient de mettre, Jean-Baptiste qui venait de se faire trancher la tête, les disciples venaient de prendre son corps pour finalement le placer dans un tombeau. Et les apôtres vont revenir auprès de Jésus et lui raconter tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Et verset 31, eh bien, les gens qui arrivaient et s'en allaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est pourquoi il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. » Ils partirent donc dans la barque seuls vers un endroit isolé. Mais beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Ils accoururent alors de toutes les villes et arrivèrent à pied à cet endroit avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus sortit de la barque, il vit cette grande foule. Son cœur fut rempli de pitié ou ému de compassion pour ces gens parce qu'ils ressemblaient à un troupeau qui n'a pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il était déjà tard lorsque les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et lui dirent, « Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie ces gens pour qu'ils aillent dans les fermes et les villages, les environs, s'acheter de la nourriture. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui demandèrent, « Voudrais-tu que nous allions acheter du pain pour une valeur de 200 pièces d'argent afin de leur donner à manger? » Alors Jésus leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Quand ils furent renseignés, ils lui dirent, « Nous avons 5 pains et aussi 2 poissons. » Ensuite, Jésus ordonna à ses disciples de faire asseoir tous les gens par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent en rang de 100 et de 50. Puis Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent aux gens. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux, tous. Chacun mangea et eut assez de nourriture. Les disciples emportèrent les morceaux de pain et de poisson qui restaient, de quoi remplir 12 corbeilles. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Prions. Seigneur, c'est vrai qu'à travers les cantiques ce matin, à travers notre vécu, Seigneur, au quotidien, depuis que nous t'avons rencontré, nous pouvons dire que tu es un grand Dieu. Que le ciel, malgré son immensité, Seigneur, ne peut déjà pas te contenir. Et Seigneur, quand nous regardons le ciel, les étoiles, tout ce que tu as créé, Seigneur, eh bien, nous avons de la difficulté à saisir, Seigneur, jusqu'à quel point tu es grand. Jusqu'à quel point, Seigneur, ce grand Dieu a pu trouver sa place dans notre cœur qui était si petit. Seigneur, merci d'avoir fait ton nid en nous. Merci par ton esprit de nous diriger jour après jour, afin que nous puissions, Seigneur, marcher comme tu nous le demandes. Merci, Seigneur, parce que nous te demandons que ton esprit puisse parler à nos cœurs ce matin, afin que nous puissions voir que tu es un grand Dieu, mais non pas pour les grands de ce monde, mais surtout pour les tout-petits, pour ceux, Seigneur, qui s'humilient, qui veulent bien accepter ce message merveilleux que tu nous as laissé dans la personne de Jésus. Bénis ta parole ce matin, qu'elle puisse porter du fruit, et du fruit qui va durer pour l'éternité. Et c'est en Jésus que je te le demande. Le peuple de Dieu dit Amen. En regardant Jésus nourrir les foules, nous avons besoin de nous rappeler que celui qui a accompli ce miracle est devenu notre Seigneur et que ce qu'il a fait à cette époque, il peut le faire encore aujourd'hui. Il était le Seigneur des tout-petits ou des petits à cette époque et il est toujours le Seigneur des petits aujourd'hui. Examinons ensemble. Ce que j'aimerais regarder ensemble ce matin, c'est ce miracle qui a sûrement quelque chose d'important à nous enseigner puisqu'il apparaît dans les quatre évangiles. Il apparaît dans les quatre évangiles. Permettez-moi de vous montrer à travers ce passage. Je vais regarder parce qu'on a déjà prêché dans la dernière partie, versets 39 à 44. On a déjà amené un message complet sur ce texte. Mais j'aimerais regarder ce message d'un autre angle ce matin et vous montrer à travers ce passage quelques exemples où Jésus prouve qu'il veut manifester sa puissance et autant dans les petites choses que dans les grandes. Premièrement, versets 35 à 36, il nous rappelle qu'il est le Seigneur de nos petits doutes et de nos petites frayeurs. C'est extraordinaire! Extraordinaire! Les disciples craignaient que les gens ne soient pas capables de trouver de la nourriture alors que l'heure avançait de plus en plus. Évidemment, les disciples eux-mêmes étaient fatigués. Ils avaient faim. Et ils supposaient que c'était la même chose pour les gens. Après tout, les gens avaient suivi Jésus à pied jusque de l'autre côté du lac et ils n'avaient pas pris le temps de prendre de la nourriture avec eux. Frères et sœurs, ils se trouvaient dans un endroit désert à 15 kilomètres de chez eux et il était impossible pour eux de trouver de la nourriture. Et les disciples vont dire à leur maître, « Maître, tu enseignais suffisamment longtemps, laisse partir ces gens pour qu'ils trouvent de la nourriture. » Frères et sœurs, les disciples, ils sont dans le doute et dans la peur ici. Et si Jésus continue à prêcher, si Jésus continue à enseigner, il n'y a personne qui va pouvoir trouver quelque chose à manger. Ils allèrent donc le trouver pour leur exprimer leurs doutes et leurs craintes. Permettez-moi de vous poser deux questions. Avez-vous déjà vécu une ou des situations dans votre vie où vous avez douté, à un moment donné, que vous vous en sortiriez? Deuxième question, avez-vous déjà réfléchi sur la situation dans laquelle se trouve notre monde? Vous est-il déjà arrivé d'avoir peur parce que vous vous étiez demandé comment tout cela allait se terminer? Il y a eu le G20 cette semaine. Ça s'est terminé dans la confusion. Et ce sont ceux qui prennent des décisions pour ce monde. Mais peu importe les décisions qu'ils prennent, on peut avoir l'assurance en tant que chrétien qu'ils accomplissent parfaitement le plan de Dieu. Parfaitement. Dieu a donné un point de terminaison. Dieu a donné rendez-vous à l'humanité. Et peu importe ce que les grands de ce monde prennent comme décision, ça ne bougera pas l'horloge de Dieu. Et ça ne bougera pas la journée, ni la minute, ni la seconde où Dieu va mettre fin à tout ce chaos sur la terre. Et c'est notre espérance, quoi, que Dieu puisse mettre fin à toute cette misère, tous ces abus que nous voyons dans notre monde. Ce que je suis en train de vous demander à travers ces deux questions, en fait, c'est ceci. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui vous a déjà fait peur au point où cela vous a empêché de dormir toute une nuit? Oui, hein? Simplement de ne pas être certain qu'on va trouver, on va garder notre emploi. Cette semaine, c'était assez radical, j'ai vu dans les journaux. Hein? Le patron d'une multinationale, par téléphone, on a congédié les gens. Veuillez prendre note aujourd'hui que vous avez terminé, fini. Les gens qui avaient 20, 30, 40 ans, dans un autre monde, hein? Je suis convaincu que ces gens-là n'ont pas dormi quand ils ont reçu leur appel la nuit qui suivait. Hein? Ouais. Je pense qu'il nous est tous arrivé d'avoir peur dans nos vies, et avoir peur de l'inconnu fait partie des préoccupations de ce monde. Il n'y a pas de honte à douter et à être préoccupé lorsque nous faisons face à certaines situations imprévues que nous devons gérer. Le problème se pose lorsque nous réagissons comme les disciples. Ils se trouvaient en présence du Seigneur de gloire, mais ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient gérer la situation. C'est pour ça qu'ils avaient peur, c'est pour ça qu'ils émettaient des doutes. À vue humaine, cela leur semblait impossible que le Seigneur de gloire puisse gérer cette situation. Ils ne venaient pas se présenter devant Jésus par la foi, ils venaient vers lui habités par la crainte. En fait, ils étaient en train de dire, « Seigneur, ce problème est plus grand que toi et nous ne croyons pas que tu puisses gérer cette situation. Tu ferais mieux de renvoyer ces gens, sinon nous allons tous finir par être dans le trouble. » Vous n'avez peut-être jamais prononcé ces paroles, mais il nous est déjà arrivé, vous, à vous et à moi, d'agir comme eux. Il nous est déjà arrivé de nous être tracassés, de nous être inquiétés face à des situations ou certaines situations auxquelles nous devions faire face. Et nous nous sommes mis à douter que le Seigneur avait la capacité de les résoudre. Au lieu de venir à Jésus en disant, « Seigneur, je crois en toi, je sais que si cela représente un gros problème pour moi, cela ne représente rien pour toi. » Nous avons porté nos problèmes, nous les avons traînés avec nous et nous leur avons permis d'oublier toutes les promesses que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Je voudrais vous rappeler que le Seigneur lui-même a ordonné de lui faire confiance, de lui faire confiance dans les moments d'incertitude et de peur. Et il nous a demandé de ne pas permettre à l'inquiétude de s'installer dans notre cœur. Et vous savez pourquoi? C'est pour notre bien physique, hein? Physique, psychologique et moral, hein? Quand vous regardez ça, écoutez, je vais vous lire deux passages. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça, c'est Paul qui le dit. Je pense que Paul avait assez d'expérience pour écrire ça, et on peut croire que Paul a sûrement fait des prières et a sûrement supplié le Seigneur, à un moment donné, de sortir des situations terribles dans lesquelles il se trouvait. Et il dit, en plus, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. En français courant, c'est « Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre. » Oui, parce que c'est une paix qui vient d'en haut. « Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et voici ce que Jésus dit maintenant dans Matthieu. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture ?» et le corps plus important que les vêtements. Frères et sœurs, dans le monde matérialiste dans lequel on vit, c'est un principe extrêmement difficile à avaler. Écoutez, regardez bien. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Quand on sait qu'à un moment donné, il y a des grosses multinationales qui les usines, qui fabriquent du pain, qui fabriquent du lait, vont tomber en grève, et qu'on dit que la durée peut durer 6 mois, les gens se lancent dans les supermarchés, et ils peuvent dévaliser tout ce qui traîne de pain, tout ce qui traîne de lait, tout ce qui traîne de farine pour être sûr de ne pas manquer de faire du pain si ça dure 6 mois. On est dans un monde matérialiste. Hein? Les gens s'appuient sur leur propre force. Voilà. Et Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements? Regardez les oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Mais votre Père céleste trouve le moyen de les nourrir. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et c'est intéressant ce que Jésus dit là, parce que plus on se fait du souci, plus on risque de raccourcir finalement la durée de notre vie, et non pas de la prolonger. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux que l'une de ses fleurs. Si Dieu habille aussi l'herbe qui se trouve dans les champs et qui demain sera jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre foi est petite? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Ce sont les païens qui recherchent continuellement tout cela. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous, premièrement, du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Et ça, c'est une promesse de Dieu, hein? Ouais. C'est une promesse de Dieu. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il vous demande, et Dieu va vous accorder tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. Et c'est vrai, pourquoi se préoccuper aujourd'hui de ce qui va nous arriver, peut nous arriver peut-être demain? Je peux mourir durant la nuit? Je peux mourir en sortant? Pourquoi me préoccuper de ce qui m'attend demain? Dieu sait comment, il sait déjà, il connaît ma journée de demain. Et si je me préoccupe d'abord du royaume de Dieu, eh bien, je suis sous sa protection. Et si Dieu permet ce qui va m'arriver demain, il y a une raison. C'est dans le but de me faire progresser dans ma foi, de me faire grandir, de mieux apprécier son amour, son soutien. Amen. Ouais. Notre Sauveur est le Seigneur de nos petits doutes et de nos petites frayeurs. Certains se disent peut-être, pasteur, vous ne connaissez pas mes peurs, ce ne sont pas des petites peurs. Elles sont énormes, elles sont impossibles à supporter. Elles sont toutes sauf petites. Frères et sœurs, sans vouloir vous insulter, si vous pensez comme cela ce matin, permettez-moi de vous dire que lorsque vous pensez ainsi, vous avez la même réaction qu'ont eu les 10 espions lorsqu'ils sont revenus du pays de Canaan après avoir vu des géants dans le pays. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit. Le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter. Les gens que nous avons vus sont tous de grande taille. Nous avons même vu des géants. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis. C'était, frères et sœurs, c'était une attitude qui disait, je veux pas savoir qui est Dieu, ce qu'il peut faire. Il ne peut pas être aussi grand que ce que nous avons eu. Et quand vous regardez le témoignage de Josué et de Caleb, mais quelle foi! Quelle foi! Eux, ils décourageaient ces espions-là, ils décourageaient le peuple d'y aller. Et il y en avait deux. Ils disaient, hey, allez-y! C'est pas nous qui allons forcer la porte. C'est Dieu qui force la porte pour nous. C'est Dieu qui ouvre le terrain pour nous. Ouais. Et frères et sœurs, c'est la même chose pour nos problèmes. Frères et sœurs, le Seigneur, il dit, marche, marche. Je ne permets pas ces problèmes-là pour rien. J'ai déjà la solution pour régler ton problème. Marche dans la nouveauté de vie et tu vas voir, tout va s'ouvrir devant toi. Amen. Ouais. Indépendamment des craintes que nous pouvons avoir aujourd'hui, elles sont petites lorsque vous les placez juste à côté de Dieu, vos craintes et vos peurs. S'il a pu créer l'univers à partir de rien, il peut assurément rencontrer votre besoin. S'il a pu protéger Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, il peut prendre soin de vous, frères et sœurs. S'il a pu protéger Daniel dans la fosse aux lions, il peut prendre soin de vous. S'il a pu nourrir 3 millions de Juifs dans le désert pendant 40 ans, il peut prendre soin de vous. S'il a vaincu le péché, la mort, l'enfer, la tombe et Satan en utilisant une vieille croix rugueuse et un tombeau vide, il peut prendre soin de vous. S'il peut effacer vos péchés, il peut prendre soin de vous. Quelle que soit votre crainte ce matin, apportez-la lui et laissez-lui cela entre les mains. Il est plus capable, frères et sœurs, de prendre soin de vous, car il a le pouvoir de faire infiniment plus, dit l'apôtre Paul, que tout ce que nous demandons ou même pensons au moyen de la puissance qui agit en nous. Fait 3-4 fois, je le dis, hein, depuis un mois, ce verset-là, c'est bon de le méditer par cœur. Hein. Il a le pouvoir, Dieu a le pouvoir de faire plus, infiniment plus, que tout ce que nous demandons ou même pensons au moyen de la puissance qui agit en nous, par le Saint-Esprit qui agit en nous. C'est extraordinaire, ça. Nous, on est gênés, on s'approche du Seigneur, on lui demande des choses, on pense certaines choses, et Dieu nous dit, écoute, je suis capable de faire infiniment plus que ce que tu me demandes, ce que tu penses. Ne me limite pas, ne doute pas. Viens avec moi avec un cœur ouvert, un cœur rempli de foi. Viens, compte sur moi. Tes forces diminuent en vieillissant, mais les miennes, elles ne changent pas. Elles ne bougent pas. C'est encourageant, ça, non? Ah, quel grand Dieu nous avons, frères et sœurs. Deuxièmement, regardez, s'il est le Seigneur de ceux qui ont des petites craintes et des petites frayeurs, il est le Seigneur de ceux qui ont une petite foi, versets 37 et 38. Et on va s'arrêter là-dessus ce matin. On va regarder ça, on va s'arrêter sur ce point-là. Lorsque les disciples vont leur manifester leur crainte à Jésus, il va leur répondre calmement, « Donnez-leur vous-même à manger. » Il leur donne un ordre direct. S'ils ont faim, n'attendez pas à demain pour les nourrir. C'est aujourd'hui qu'ils ont faim. Donnez-leur maintenant à manger. Et là, les disciples les regardent autour d'eux. Il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de Burger King, il n'y a pas de Pizza Hut, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils sont dans le désert. Hein? Ouais. Et là, Jésus dit, non, donnez-leur tout de suite à manger. Nous savons à partir de Jean chapitre 6, verset 7, que seul Philippe va répondre à Jésus. Il va lui dire, même avec 200 deniers, nous n'aurons pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. Je ne sais pas si vous connaissez la valeur d'un denier à cette époque. Un denier, ça valait plus ou moins 1 euro. Et c'était le prix d'une journée de travail, comme le mentionne la parabole des ouvriers de la 11e heure dans Matthieu chapitre 20. Il fallait 8 mois un ouvrier pour gagner le montant d'argent dont parle ici Philippe. En termes d'aujourd'hui, cela équivaut à 10 000 euros. C'était plus d'argent qu'ils avaient et plus qu'ils ne pouvaient jamais espérer recueillir dans un si court laps de temps. Philippe était en train de dire, « Seigneur, même si nous avions 10 000 euros, nous ne pourrions même pas satisfaire tous ces gens. Nous ne pourrions même pas donner un petit morceau de pain à tous ces gens pour qu'ils y goûtent. C'est impossible. » Jésus va leur dire, on dit souvent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça en Belgique, on dit que le mot impossible, ce n'est pas français. Ouais. C'est vrai ou pas? Mais pour un chrétien, là, c'est pas biblique non plus. C'est pas biblique non plus. C'est impossible, c'est impossible. Tout est possible à celui qui croit, dit Jésus dans Marc. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est encourageant, ça, non? On est du bon bord, quoi. On est du bon bord, frères et sœurs. On a pris la bonne décision. Ouais. Jésus va leur dire, « Donnez-leur vous-même à manger. » Les disciples lui répondirent, « On ne peut pas. Nous n'avons pas les ressources et c'est un problème que nous ne devons pas résoudre. » Frères et sœurs, ces hommes ont analysé le problème auquel ils faisaient face et ils en sont venus à la conclusion que le problème était insurmontable. À leurs yeux, ils affrontaient un défi impossible. Comme si Dieu, en tant que ce Père qui nous aime tendrement, nous enverrait des choses qui sont impossibles à surmonter dans notre vie. Eh bien, ça, c'est pas un Dieu qui m'aime, hein, qui ferait ça. Hein. Non. Non. Mes parents m'ont jamais demandé de faire des choses qu'ils savaient que serait impossible pour moi de faire. Ils m'aimaient trop pour ça, quoi. Même si leur amour était imparfait, ils m'aimaient trop pour me faire faire des choses qui étaient impossibles à leurs yeux pour moi. Et Dieu, c'est encore au-delà de ça, hein. Dieu connaît mes limites. Hein. Oui. À leurs yeux, ils affrontaient un défi impossible, et ce, peu importe s'ils avaient... Écoutez bien. Et ce, peu importe s'ils avaient vu dans le passé Jésus changer l'eau en vin, guérir des lépreux, chasser des légions de démons, calmer de violentes tempêtes, guérir des gens atteints de maladies incurables, et même ressusciter des morts. Frères et sœurs, ils avaient oublié. Frères et sœurs, si on ne prend pas le temps de lire notre Bible à tous les jours, on va finir par oublier jusqu'à quel point Dieu nous a aimés. Et on va finir par retourner dans nos vices et dans nos travers. Ouais. L'importance de lire l'Ancien Testament, c'est extrêmement important. Paul nous dit que tout ce qui est arrivé dans l'Ancien, c'est pour nous servir d'exemple, pour bâtir notre confiance. Frères et sœurs, on a peur de ne pas avoir des beaux souliers, on a peur de ne pas avoir des beaux vêtements. Pendant 40 ans, les Israélites ont tourné en rond sans que les semelles de leurs chaussures s'usent. Pendant 40 ans, on a peur de manquer de nourriture. Pendant 40 ans, Dieu les a nourris. Il n'y avait pas de nourriture dans le désert, il les a fait venir du ciel. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que Dieu peut faire la même chose aujourd'hui? Ou si vous doutez que Dieu pourrait faire la même chose aujourd'hui? L'Ancien Testament est là pour nous dire que c'est encore possible aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on doit replonger dans l'Ancien Testament, aller chercher les récits, les miracles que Dieu a faits. C'est important. Quand vous regardez tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, bien, il dit « Je suis le même qui travaillait dans l'Ancien, et bien, je ne change pas, donc je suis le même qui travaille dans le Nouveau et qui va travailler encore aujourd'hui. Je suis le même, je ne change pas. » C'est fortifiant, non? C'est fortifiant. Maintenant, ce qui est important de regarder à travers tout ça, pourquoi tu as accompli ces miracles-là avec Daniel? Pourquoi tu as accompli ces miracles-là avec Élie? Pourquoi tu as accompli ces miracles-là avec Shadrach, Meshach et Abednego? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces miracles-là? Pourquoi tu ne les as pas fait avec d'autres? Ça, c'est important. Il y a des conditions, frères et sœurs. Dieu, c'est pas un bouffon. C'est vrai, hein? Il y a des conditions. Il a le droit de mettre les conditions, hein? Ouais. Il a payé un prix assez élevé, hein, pour mettre des conditions d'entrée, hein? Ouais. On est un grand Dieu extraordinaire qui est sans limite. On est du bon bord, frères et sœurs. On est du bon bord. Il est vaincu. Amen. Il est vaincu. Frères et sœurs, tout ce qui comptait pour les disciples à ce moment-là, c'est l'obstacle qu'ils voyaient devant eux. Ils analysaient le besoin, ils disaient, nous ne pouvons pas et nous ne croyons pas que toi, tu puisses y arriver aussi. N'est-ce pas là avoir une petite foi? Malgré que tu aies changé l'eau en vin, malgré que tu aies ressuscité des morts, Seigneur, on ne pense pas que tu peux nourrir autant de personnes. C'est trop. C'est trop. De faire apparaître le soleil, de faire apparaître le ciel, de faire apparaître la terre, ça, ça passe, mais ça, c'est trop. Quand la foi déraille, là, hein, on peut mettre n'importe quoi en doute. Hein. Et même croire à l'évolution plutôt qu'à la création. Hein. Ouais. Et la pression est énorme. Hein. Les grands théologiens chrétiens évangéliques qui croient maintenant à la théorie d'évolution. Hein. Parce qu'ils remettent en question les 11 premiers chapitres de la Bible. À partir du moment où vous remettez un verset en question dans les 11 premiers chapitres de la Bible, vous pouvez jeter votre Bible. Vous pouvez l'acheter, il n'y a plus rien qui tient. Adam et Ève, ça n'a jamais existé. Hein? C'est des contes. Ça. Déjà, l'évêque de Liège l'a dit il y a quelques mois. Hein? Ouais, ouais. Et Jésus, sachant ce qui arriverait, parce qu'il est Dieu, hein? Qu'est-ce qu'il a dit dans les évangiles? Il n'y en était pas de même au commencement lorsque Dieu créa l'homme et la femme. Ah, Jésus dit, ce n'est pas le fruit de l'évolution, l'homme et la femme. On conteste le déluge, on conteste l'existence de Noé. Jésus dit, il en sera de même à la fin des temps, comme au temps de Noé. Hein. On a remis en question l'existence de Sodome et Gomorre. Hein. Il a parlé de la femme de Lot. Hein. Souvenez-vous de la femme de Lot. Hein. Jésus savait. Il savait qu'on viendrait contester la création, les choses qui se passaient dans l'Ancien Testament. Et il nous en a placé quelques-unes dans les évangiles. Hein. Tiens, prenez ça les scientifiques. Tiens, clac, clac, clac. Et ce qui est béni aujourd'hui, hein, c'est dans le milieu scientifique qu'il y a le plus de conversions. C'est extraordinaire. Hein. Et ils peuvent continuer à scruter l'univers. Hein. Plus ils scrutent l'univers, plus loin ils vont. Ils ne peuvent pas croire. Les scientifiques, ils tombent des nues, ne peuvent pas croire que c'est le fruit du hasard. Hein. C'est impensable. Hein. Impensable. Extraordinaire, non? Frères et sœurs, Dieu ne tient pas seulement l'univers dans ses mains. Dieu peut mettre le soleil. Le soleil dans sa main, c'est gros comme un grain de poussière. Il peut garder le soleil dans sa main pendant toute l'éternité. Il ne sentira pas sa main chauffer. Il n'y a pas de problème avec Dieu, frères et sœurs. Ouais. On ne peut pas imaginer la grandeur de Dieu. On ne peut pas imaginer la puissance de Dieu. Hein. Ouais. Nous, si on ose se mettre la main sur une plaque électrique, c'est pas long qu'on ne la laissera pas longtemps, à moins d'être fou. Hein. Mais Dieu tient l'univers dans sa main. On ne peut pas imaginer. Hein. On peut pas imaginer. On en a parlé la semaine passée. Hein. Mais on ne peut pas imaginer. Ouais. Frères et sœurs, c'est vrai que les disciples ont douté, mais il ne faut pas être trop dur avec eux. On est un petit peu comme eux. Il nous arrive même d'être pire qu'eux. Laissez-moi vous poser trois questions. Est-ce que Dieu a déjà échoué à rencontrer un de vos besoins? Deuxième question. Avez-vous eu à faire face à un besoin auquel Dieu n'a pas pu répondre? Troisième question. L'avez-vous déjà vu ne pas accomplir une promesse qu'il a faite dans sa parole? Voilà trois questions importantes à se poser. Le fait demeure que Dieu ne nous a jamais déçus et qu'il ne nous décevra jamais. Ne vous a-t-il pas sauvé et n'a-t-il pas transformé par la suite votre vie lorsque vous lui avez demandé par la foi? Ne vous a-t-il pas pardonné vos péchés et remplacé l'agitation qui se trouvait dans votre cœur par sa paix qui surpasse toute intelligence, simplement parce que vous lui avez demandé par la foi? Ne vous a-t-il pas donné à de nombreuses reprises la certitude que vous lui apporteniez, cela réjouit votre cœur? S'il a pu faire cela, il me semble, frères et sœurs, qu'il peut tout faire. Vous savez pourquoi? Je vais vous poser une question. D'après vous, est-ce que vous croyez qu'il était plus difficile à Dieu de créer l'univers que de sauver une personne? Est-ce que vous croyez qu'il est plus dur à Dieu de créer l'univers que de sauver une personne? Je vais vous dire une chose. C'est plus facile à Dieu de créer l'univers que de sauver une personne. Parce que pour sauver une personne, c'est pas son consentement.
Quelle grande responsabilité à quelqu'un qui refuse d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne peut rien faire, impuissant, à sauver une personne qui ne veut pas accepter l'offre qu'il lui fait en Jésus-Christ. C'est incroyable, hein? À cause de notre incrédulité, on peut limiter la puissance de Dieu. C'est incroyable. Ouais. Quelle était la grandeur de votre foi lorsque vous êtes venu à lui pour être sauvé? Avez-vous une grande foi, une si grande foi que cela ce jour-là? Non, vous aviez une toute petite foi fragile et tellement limitée. Et pourtant, cela a été suffisant pour vous mettre en relation avec ce grand Dieu qui était capable de vous sauver sur la base de votre petite foi si fragile. Il ne faut pas une grande foi pour obtenir de grandes réponses de la part de Dieu. Pensez à ces versets, que c'est Jésus qui parle. Marc 9, 23, 24, « Le Père dont le Fils est tourmenté par un esprit mauvais. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tu me demandes si je peux le délivrer. Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais j'ai encore des doutes. Je crois, je viens devant toi parce que je crois que tu vas le faire, mais je doute en même temps. Viens à mon secours. » Matthieu 21, 22. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Maintenant, ça, c'est un bel exemple que finalement, si vous avez la foi biblique, il n'y a pas de limite à faire œuvrer Dieu dans votre vie. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il ne dit pas presque tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout. Et vous savez pourquoi vous allez le recevoir? Parce que celui qui a la foi ne demandera jamais rien pour son propre besoin personnel ni pour son propre bonheur. Tout ce qu'il va demander par la foi, c'est pour que Dieu soit glorifié. Et à ce moment-là, Dieu ne peut pas lui refuser de lui accorder. C'est sur cette base-là que cette promesse, elle tient. Dieu honore celui qui a une toute petite foi, mais il ne peut rien faire pour celui qui est incrédule. Jacques, chapitre 1, versets 5 et 7. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est sans la vague de la mer, que le vent soulève et pousse de tous côtés, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Lorsque nous agissons, frères et sœurs, comme les disciples, et que nous nous fixons nos yeux sur le problème, plutôt que sur celui qui a le pouvoir de résoudre le problème, nous pouvons nous attendre à ne connaître rien d'autre qu'un échec. Cependant, si nous croyons, même si cela nous semble impossible, que Dieu peut le faire, nous le verrons coup après coup faire des choses incroyables, voire impossibles à vue humaine. Rappelez-vous Gédéon, qui partit se battre contre les Madianites avec une armée de 32 000 hommes. Frères et sœurs, Gédéon, je ne sais pas si vous avez lu son histoire, ça fait longtemps. Gédéon, c'était un archi-peureux, doublement peureux. Il était caché, il se cachait des Madianites pour moudre son grain, il avait peur. Parce que les Madianites, ils faisaient des razzias et ils enlevaient les graines, ils enlevaient les céréales aux Israélites pour les faire crever de faim. Il les contrôlait. Et là, Gédéon, il était caché. Oui. Et là, c'est l'ange de l'Éternel qui vient le voir. Hein. Donc, c'est Jésus-Christ avant son incarnation. Et il le salue, il ne le démolit pas. Il dit, « Salut, vaillant héros! » Pas vaillant héros à cause de tes capacités, parce que moi, je vais travailler maintenant à travers toi. Et Gédéon, malgré ça, hein, sa petite foi, hein, il va mettre Dieu en plus à l'épreuve, hein. Il va y placer une toison, hein? Deux fois. Si le gazon est mouillé, puis la toison est sèche le lendemain matin, ça va. Bien, c'était comme ça, il a dit, maintenant, faisons le contraire, pour être sûr que ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu y a fait, quoi. Hein? C'est la toison qui était mouillée le lendemain, puis la rosée, il n'y avait pas de rosée nulle part sur le gazon, quoi. Et là, ça commençait à grandir un petit peu plus, la foi de Gédéon. Il a commencé à avoir un peu plus de muscles pour dire, bon, on va y aller, Seigneur, ouais. Il y avait une armée de 32 000 hommes. Le Seigneur lui dit, 32 000 hommes, c'est trop! Gédéon doit avoir dit, Seigneur, pour moi, tu ne sais pas compter, hein? Parce que l'armée des Madianites, il y a 135 000 hommes, hein? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? 300, ça va suffire. 300 contre 135 000, divisez ça par 300, ça vous fait beaucoup de soldats à avoir en plein front, en pleine face en même temps, hein? Je voulais y montrer une chose importante à Gédéon. Hein? C'est moi qui dirige la guerre. C'est moi qui vais contrôler le combat.
tout ce que je te demande, là, fais-moi donc confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Écoute, cette situation-là, je vais te la faire vivre pour augmenter la mesure de ta foi, Gédéon. Ouais. Que tu vois que le Dieu de l'impossible est de ton côté, Gédéon. Ouais. Eh bien, avec 300 hommes sur 135 000 soldats de l'autre côté, il en restait 15 000 quand ils ont fini, quand Dieu a arrêté de faire le ménage chez les Madianites. Ouais. 300 hommes. 300 hommes qui ont battu 120 000 soldats. Une bonne moyenne, hein? 300 hommes. Frères et sœurs, Jésus est le Seigneur de ceux qui ont une petite foi. Pouvez-vous mesurer la grandeur de votre foi ce matin? Si vous pouviez jamais apprendre à apporter vos petites peurs, votre petite foi et vos petits besoins personnels à Dieu, il utilisera chaque fois ces petites choses d'une manière incroyable pour vous épater et manifester sa puissance. Apportez-lui votre petite foi et regardez-le déplacer vos montagnes, frères et sœurs. Apportez-lui votre petit témoignage et regardez-le sauver des gens, des âmes à travers votre petit témoignage. Apportez-lui votre petite louange et regardez-le prendre plaisir à vous entendre. Apportez-lui vos petites capacités et regardez-les comment il va les utiliser. Il se spécialise en utilisant les petites choses pour étonner les hommes et pour révéler sa gloire. Car Dieu a choisi ce que le monde estime fou pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce que le monde estime bas et méprisable, dit Paul, ce qui n'est rien à ses yeux, pour détruire ce qu'il estime important. Il a utilisé un petit bâton que Moïse tenait dans sa main pour séparer la mer Rouge et libérer son peuple de Pharaon. Les petites choses! Il a utilisé une petite pierre lancée par un petit garçon nommé David pour foudroyer un géant qui faisait peur à tout le monde. Il a utilisé un petit morceau de pain appelé la manne pour nourrir son peuple pendant 40 ans. Il a utilisé le simple manteau d'Élie qui, en frappant les eaux du Jourdain, a vu le Jourdain se séparer en deux pour qu'il puisse traverser la cercle. Il a utilisé une petite veuve insignifiante qui, avec une petite quantité d'huile et une petite poignée de farine, a pu pendant longtemps nourrir le prophète Élie. Il a utilisé une petite juive dont le nom est inconnu de tous pour amener un petit bébé dans le monde qui, rendu à l'âge adulte, va mourir sur une petite croix, sur une petite colline, dans un petit pays appelé Israël, mais à travers sa mort, il va accorder un grand salut à tous ceux qui le reçoivent. C'est Jésus. Qui sait ce qu'il fera avec votre petite foi, frères et sœurs, et avec vos petits moyens, si vous prenez la décision de lui remettre cela entre ses mains? Avez-vous des petites choses que vous avez besoin d'apporter au Maître ce matin? Apportez-les-lui et regardez-le transformer tout ça en quelque chose de grand, parce que c'est sa spécialité. N'est-ce pas? Un grand cuisinier, c'est quoi? C'est qu'à partir de rien, il vous fait un plat extraordinaire. Tu dis, comment il a pu faire ça, quoi? Il y a des secrets. Ah, ça, moi, ça n'aurait pas tourné comme ça, hein? Il n'y a pas personne qui aurait osé manger ce que je fais, hein? Si j'avais fait la même chose que lui. Ouais. Frères et sœurs, Dieu, à partir de rien, accomplit des miracles extraordinaires. À travers vous. À travers vous, frères et sœurs. Il est quand même important de clarifier une chose ce matin. Jésus aurait pu nourrir la foule à partir de rien. C'est Dieu fait homme. Il aurait pu se faire livrer les poissons et les pains par les anges, s'il l'avait voulu. Il a choisi d'utiliser ce qui lui a été donné pour manifester sa puissance. Les hommes. Ce que les hommes l'ont apporté. Apportez ce matin ce que vous avez de petit et placez-le dans ses mains. Il le prendra et il l'utilisera d'une manière que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Apportez vos petits talents, vos petites capacités et regardez-le que vous utilisez. Apportez vos petits dons et regardez-les le multiplier pour se glorifier. Apportez votre petit moi et regardez-le comment il va l'utiliser. Dieu se spécialise en prenant nos corps mortels et fragiles pour manifester sa gloire. On est du bon côté. On est du bon côté, frères et sœurs. Nous sommes comme des vases d'argile pour que l'on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et non pas à nous. Sans lui, je ne suis qu'un vase fissuré. Avec lui, je peux être un vase d'honneur pour la gloire de Dieu. Laissez-lui réparer vos petites fissures causées par la vie dans ce monde, afin que vous deveniez un vase solide et incassable, incassable entre ses mains. Frères et sœurs, c'est extraordinaire ce que Dieu peut faire. Amen! Les gens remettent en doute les miracles de la Bible. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas juste prendre la Bible au sérieux? Jésus, le Seigneur des petits! Il a pris le petit ange d'un petit garçon et il a accompli un miracle pour nourrir des milliers de personnes. Et quand vous regardez dans le grec, hein, les poissons, là, c'était pas des 10 mètres de long, hein? Les poissons de cette région, c'était pas plus grand qu'une sardine, hein? Et les pains, c'était des genres de beignes, hein? Et Dieu va prendre un petit garçon insignifiant, que personne sûrement avait porté attention. Et quand la faim se fait sentir, tu vois quelqu'un qui se promène avec un sac. Ouais. Hey, Dieu est grand, frères et sœurs. Dieu est grand. Il est encore de même aujourd'hui, si vous vivez une petite situation difficile et que vous avez besoin de venir à lui, ce serait le bon moment ce matin. Si vous êtes perdu dans vos péchés, que vous avez besoin d'être sauvé, il vous sauvera si vous venez à lui, que vous le lui demandez. Dieu ne refuse son pardon à personne. Si vous êtes éloigné de lui, que vous revenez à lui ce matin, il restaurera votre relation avec lui si vous lui demandez. Il peut multiplier vos pains et vos poissons si vous voulez juste les lui remettre entre ses mains. Il vous utilisera d'une manière dont vous n'avez jamais imaginé si vous lui laissez une petite opportunité de le faire. Le but de ce miracle n'était pas de nourrir la foule, mais d'enseigner à ses disciples que Jésus était plus que suffisant pour répondre à tous nos besoins dans la vie. Il est plus que suffisant pour sauver. Il est plus que suffisant pour pardonner. Il est plus que suffisant pour prendre sur lui toutes les choses dans votre vie et vous donner beaucoup en retour. Frères et sœurs, on a un grand Dieu. On a chanté « Rien n'est impossible à Dieu ». On a un grand Dieu. Frères et sœurs, quelle est la mesure de votre foi ce matin? Vous vous sentez peut-être complexé parce qu'elle est petite. C'est à partir des petites choses que Dieu accomplit souvent de grandes choses. C'est à partir de gens démunis que Dieu outille pour pouvoir accomplir de grands miracles. Dieu travaille avec des gens qui croient, qui savent, qui ont peu de capacités, parce qu'il sait que ces gens-là, c'est une catégorie de gens qui vont lui faire confiance pour qu'ils puissent accomplir de grandes choses en lui, en nous. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir. Si ma foi est petite ce matin, bien, remerciez-le et dire, Seigneur, avec ma petite foi, je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mais le petit peu que je peux t'offrir, je sais que tu peux accomplir des miracles incroyables à travers ma vie. Vous avez des enfants qui ne sont pas sauvés. Vous êtes peut-être découragés qu'ils viennent un jour au Seigneur. Votre foi diminue par rapport à cela. Vos sujets de prière ne sont plus aussi puissants qu'avant par rapport à vos enfants. Confessez-le à Dieu. Dis, Seigneur, ça fait tant d'années que je te prie de mes enfants. Ils ne sont pas encore sauvés. Seigneur, viens au secours de ma foi. Augmente la mesure de ma foi concernant mes enfants et accomplis un miracle, Seigneur. Seigneur, tu as le don de m'épater. Tu as le don, Seigneur, de faire des choses auxquelles je ne m'attends pas. Seigneur, je te remets mes enfants. Sauve mes enfants, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Sauve mes enfants pour qu'on puisse passer l'éternité ensemble. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter un dernier cantique.